Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h04, passé de 12 secondes sur Transistor et après quelques petits soucis techniques qui expliquent ce retard, mais promis, on va le rattraper, toute l'équipe est donc là et on démarre tout de suite pour vous retransmettre l'actualité mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée. Alors le programme, vous le connaissez, hein, on aura une revue de presse, une notion pourrie avec Arthur, l'édito économique et puis ensuite on passera à la culture avec bien sûr le journal de la culture, la chronique musicienne, l'édito scientifique. Et on terminera avec un petit peu d'actualité de la radio, mais tout de suite, on commence par le journal. Et au sommaire de ce journal, il sera question de prix du carburant, de l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron qui occasionne une nouvelle petite polémique. Et puis on passera à l'international avec l'élection de Jair Bolsonaro et puis les midterms aux États-Unis. Bienvenue donc à toutes et à tous pour le journal radiophonique amplifié. Et on commence tout de suite avec un journal qui est préparé par Arthur Maëléo et Marie. Au national tout d'abord, Arthur.
Nouvelle petite phrase de notre président ce 7 novembre durant son itinéraire mémoriel. Pas méprisante cette fois, mais légèrement choquante. Pétain, grand soldat de la Première Guerre mondiale, aux erreurs funestes durant la Seconde. Avec cette thèse qui sent bon les années 60, Emmanuel Macron a soulevé un tollé quelques jours avant la célébration du centenaire de l'armistice du 11 novembre. Était-ce une erreur ? Ou était-ce un choix pour couvrir la polémique du carburant ? En tout cas, celle-ci a quelque chose de puant pendant que Zemmour est à la tête du classement. Et Emmanuel Macron, ne retirant pas sa phrase, accuse une police de l'histoire qui lui est tombée dessus. Errare humanum est, perseverare diabolicum.
Prix du carburant, les automobilistes grognent. Suite à l'annonce par le gouvernement des taxes sur le carburant, Macron chute dans le cœur des personnes motorisées. Les gilets jaunes attendaient le chef de l'État à Albert, en Somme, aujourd'hui, et ont dû être évacués. Les fausses infos fusent, notamment l'idée selon laquelle la hausse des taxes a été pensée pour compenser la baisse des taxes d'habitation. La hausse des prix du carburant est seulement liée à un tiers, finalement, aux taxes de l'État, et le reste étant imputable à la hausse des prix du baril. J'espère qu'entre toutes ces hausses et ces baisses, vous y retrouvez. Les récriminations vont bon train pourtant et des blocages routiers sont prévus le 17 novembre au Grand Dam de Matignon.
Le 5 novembre, deux immeubles se sont effondrés dans le quartier populaire de Noailles à Marseille. 8 morts ont été retrouvés au moment où nous parlons. En 2015, cette copropriété avait été frappée d'un arrêt de péril en raison de son insalubrité et de sa vieillesse. Deux de ces immeubles étaient censés être vides étaient squattés par des sans-papiers ou des SDF ou vendus avec par des marchands de sommeil. Le maire Les Républicains, Jean-Claude Godin de l'arrondissement, est accusé en raison de son indulgence envers ces mêmes marchands de sommeil et de son utilisation de l'argent public pour les différents projets urbains, par exemple pour le stade Vélodrome ou pour affronter les pires ennemis de Marseille dans le quartier de la Plaine, à savoir déraciner des arbres.
Et tout de suite, on passe à l'international avec ton premier sujet, Marie.
Élu à la tête du Brésil avec plus de 55% des suffrages le 29 octobre dernier, Jair Bolsonaro, considéré comme candidat anti-système d'extrême droite, a commencé à rassembler les ministres qui formeront son gouvernement et affirme avoir déjà attribué 80% des postes. Le parlementaire Onyx Lorenzoni, membre du parti de droite, homme d'affaires et député ouvertement anticorruption, fait figure d'homme politique expérimenté et a été nommé chef d'un gouvernement restreint de 16 ministres contre 30 actuellement. Sergio Moro ensuite, le juge qui a mené l'opération anticorruption Lava Jato et condamné Lula à 12 ans de prison pour blanchiment d'argent, s'est vu attribuer la tête d'un ministère de la justice aux pouvoirs étendus. La direction d'un super ministère de l'économie, elle, revient à l'ultralibéral Paulo Guedes, désireux entre autres de vendre la quasi-totalité des entreprises publiques, tandis que l'astronaute Marcos Pontes officiera au ministère des sciences et de la technique et que le futur ministère de la Défense, le général Augusto Heleno, a annoncé préconiser le recours aussi aux snipers des forces de sécurité pour lutter contre la criminalité. Est également en suspens une décision qui a fait beaucoup parler d'elle, la fusion alarmante et très critiquée des ministères de l'Environnement et de l'Agriculture.
Aux États-Unis, actualité extrêmement chargée la semaine précédente. Tout d'abord, les résultats des midterms, élections visant à renouveler entre autres la totalité de la Chambre des représentants et un peu plus d'un tiers du Sénat, les deux chambres du Congrès. Les républicains ont perdu la majorité à la Chambre des représentants, où les démocrates ont emporté au moins 219 sièges, la majorité étant à 218. Le Sénat, lui, est resté républicain, ces derniers atteignant la majorité de 51 sièges sur les 100 totaux. Le pays reste donc fortement clivé, souligné par les élections également de plusieurs gouverneurs d'État qui se sont révélés extrêmement serrés, au pourcent près dans certains cas. Les démocrates ont acquis ainsi la capacité d'entraver fortement le programme de Trump, qui va devoir négocier avec eux pour continuer à l'appliquer.
On passe maintenant des États-Unis au Pakistan pour évoquer une affaire qui ébranle la communauté internationale. Asia Bibi, chrétienne condamnée à mort en 2010 pour avoir bu l'eau d'un puits réservé, en principe, aux musulmans, avait été acquittée par la Cour suprême le 31 octobre dernier. Mais la décision n'a pas plu aux islamistes qui affirment que les lois anti-blasphème doivent s'appliquer contre Asia Bibi. Ils ont paralysé le pays durant 3 jours de manifestations suite auxquelles le gouvernement a signé un accord controversé avec les islamistes et engagé une procédure visant à empêcher Asia Bibi de sortir du pays. Si la chrétienne, devenue symbole de la résistance contre l'extrémisme, aurait été libérée de prison hier pour être placée dans un endroit sûr, sa situation suscite la mobilisation de la communauté internationale. En France, Anne Hidalgo et Laurent Wauquiez ont notamment appelé le gouvernement à intervenir pour, je cite, « sauver la vie d'Asia Bibi ».
Un mois maintenant que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi est mort au consulat saoudien à Istanbul en Turquie. Le procureur d'Istanbul a ainsi affirmé la semaine dernière qu'il avait été vraisemblablement égorgé et démembré dans l'enceinte du consulat par un commando venu d'Arabie Saoudite, tandis que la presse turque indique, selon ses sources, que le corps aurait été dissous dans de l'acide et que l'ordre d'assassinat serait venu du sommet de l'État saoudien, continuant de braquer les projecteurs sur le prince héritier du royaume, Mohamed Ben Salman. Les bribes d'explications contradictoires du royaume sont loin d'avoir convaincu la communauté internationale, plusieurs États ayant revu leurs relations diplomatiques et économiques avec le royaume, notamment en annulant leur venue au Davos du désert à Riyad. Une première fêlure est ainsi apparue dans le soutien militaire aveugle que fournissaient notamment les États-Unis et la France à la coalition menée par l'Arabie Saoudite contre les rebelles Houthis au Yémen. Les deux pays ont en effet tous les deux appelé à la fin du conflit et à l'ouverture de négociations. La très difficile photo d'Amal Hussein, petite fille yéménite de 7 ans, rachitique, publiée par le New York Times il y a 10 jours, illustre tristement l'état catastrophique du pays, ravagé depuis 3 ans par la guerre, la faim et les maladies comme le choléra. L'ONU estime ainsi que les 3/4 de la population yéménite ont besoin d'aide alimentaire et médicale d'urgence. Amal, elle, est morte de faim 3 jours après la publication du reportage.